Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 13. Nous étions à 300 mètres au-dessus des baraquements. Les falaises tombaient dans les pentes du Mékong. Les yaks étaient des grains sur la steppe. La fumée du poêle bleuissait l'air. La température tombait encore. Rien ne bougeait. L'univers dormait. Nous serpentions entre les vires vers le campement quand nous l'entendîmes feuler. Ce n'était pas un madrigal. C'était un déchirement. L'écho retentit 10 fois, vaste et triste. Les panthères s'appelaient pour perpétrer la race tachetée. D'où le chant émanait-il? Des rives du fleuve ou des grottes de parois? Le miaulement douloureux emplit la vallée. Il fallait un effort d'imagination pour entendre le chant d'amour. Les panthères feulaient et s'en allaient. Je l'aime, je le fuis, confiait la Bérénice de Racine, reine des panthères. Je bâtissais déjà une théorie de l'amour proportionnée à la distance conservée entre les êtres. La faible fréquence des fréquentations garantirait la perpétuation du sentiment. C'est le contraire, corrigea Munier, à qui j'exposais mes théories de bistrot. Elles s'appellent pour se trouver. Elles se choisissent, se cherchent. Les feulements s'accordent. La panthère ne réapparaissait pas. Nous sillonnions les versants, explorions les cavités. Passaient des renards, des lièvres, force troupeaux de chèvres bleues, mais de panthères jamais. Et les gypaètes traçaient leur ronde de mort au-dessus de ma déconvenue. Il fallait s'y résoudre. Ici, l'évolution n'avait pas misé sur la perpétuation par la multitude. Dans les écosystèmes tropicaux, la vie se répand par profusion. Nuages de moustiques, grouillements d'arthropodes, explosions d'oiseaux. L'existence est courte, rapide, interchangeable. De la dynamite spermatique. La nature répare en prodigalité ce qu'elle disperse dans le gâchis de la dévoration. Au Tibet, la longévité des créatures compense leur rareté. Les bêtes sont résistantes, individuées. Programmé pour le long terme. La vie dure. Les herbivores tondent une herbe maigre. Les vautours coupent un air vide. Les prédateurs rentrent bredouilles. Ils relanceront leurs attaques plus tard, plus loin, égayant d'autres troupeaux. Parfois, pendant des heures, pas un mouvement, pas un souffle. Le vent arrachait au versant des dartres de neige. Nous tenions bon. Le principe du guet est d'endurer l'inconfort dans l'espoir qu'une rencontre en légitime l'acceptation. L'idée qu'elle était là et que nous l'avions vue, qu'elle nous voyait peut-être et qu'elle pouvait surgir, suffisait à supporter l'attente. La possibilité de la panthère palpitait dans la montagne. Et nous ne demandions qu'à elle de maintenir une tension d'espérance suffisante pour tout supporter. Ce jour-là, les trois enfants vinrent me rejoindre, menés par Gompa, le plus petit et le plus démoniaque. Ils allèrent droit sur ma position, chantant, caracolant, les vestes débraillées, les cheveux emportés par le vent. Ils marchèrent exactement vers les blocs de rochers où je m'étais cachée, ruinant ainsi mes efforts de dissimulation et prouvant que mes camouflages n'étaient pas au point. Du fond du vallon, ils avaient repéré ma cache à 500 mètres de distance. Ils s'installèrent avec moi, vifs, ravissants, ne connaissant du monde que ce vallon et de la vie que des journées limpides, côtoyant les bêtes fauves et les yaks assagis. À 8 ans, ces mômes avaient la notion de la liberté, de l'autonomie et des responsabilités, la morve au nez, le sourire en coin, un poil comme seconde mère et un troupeau de géants à charge. Ils craignaient les panthères, mais portaient un petit poignard à la ceinture et se seraient défendus en cas d'attaque. En outre, ils conjuraient les peurs par leurs chants gueulés dans l'air glacé. Ils n'avaient pas de conseiller d'orientation. Ils savaient courir la montagne. Ils circulaient chaque jour devant des promesses de défilé conduisant à des cols ouverts sur l'horizon. Ils échappaient à l'infamie de nos enfances européennes, la pédagogie qui ôte aux enfants la gaieté. Leur monde avait ses bordures, la nuit ses froidures, l'été ses douceurs, l'hiver ses souffrances. Ils peuplaient un royaume crénelé de tours, percé d'arches, défendu de parois. Ils ne regardaient jamais d'écran, et peut-être leur grâce était-elle proportionnelle à l'absence de haut débit. Munier, Marie et Léo, cachés au pied d'une paroi de la rive droite, vinrent rejoindre notre groupe. Alors, abandonnant toute chance de surprendre la panthère, nous tînmes salon dans les rochers jusqu'au soir. Munier montra aux enfants le tirage papier d'une photo qu'il avait prise une année auparavant. Au premier plan, un faucon couleur de cuir posté sur un rocher de lichen. En arrière, légèrement à gauche, derrière le contour du calcaire, invisible à un regard non prévenu, apparaissaient les yeux d'une panthère fixant le photographe. La tête de l'animal s'incorporait au roc et l'œil mettait un temps à la distinguer. Munier avait réglé ses focales sur les plumes de l'oiseau sans même soupçonner que la panthère l'observait. Ce n'est qu'en étudiant ses photos, 2 mois plus tard, qu'il s'était aperçu de sa présence. Lui, le naturaliste infaillible, avait été berné. Quand il m'avait montré la photo, je n'avais rien distingué d'autre que l'oiseau, et il avait fallu que mon ami me pointât du doigt la panthère pour que je perçoive l'existence de ce que mon regard n'aurait jamais détecté de lui-même, car il ne cherchait pas à saisir autre chose qu'une présence immédiate. Une fois localisée, la bête me frappait à chaque fois que je voyais l'image. L'insoupçonnable était devenu l'évident. Cette photo recelait ses enseignements. Dans la nature, nous sommes regardés. D'autre part, nos yeux vont toujours vers le plus simple, confirment ce que nous savons déjà. L'enfant, moins conditionné que l'adulte, saisit les mystères des arrière-plans et des présences repliées. Nos petits amis tibétains ne se firent pas abuser. Leurs doigts se pointèrent immédiatement sur elle. « Ça !» hurlaient-ils. Non que leur vie montagnarde leur eût affûté le regard, mais leur œil d'enfant ne se laissait pas conduire vers la certitude du donné. Ils exploraient les périphéries du réel. Définition du regard artistique, voir les fauves cachés derrière les paravents banals. À demain pour le 14e extrait.